7-9.
Bienvenue dans le 7-9, bonjour à tous. Nous sommes le lundi 9 mai. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, la bombe russe larguée sur une école dans l'est de l'Ukraine a fait 60 morts selon Kiev, alors que la Russie célèbre aujourd'hui la victoire sur l'Allemagne nazie. Nous serons en direct de Moscou. Les autres titres, Anaïs.
Un ancien préfet rwandais jugé à partir d'aujourd'hui en France pour sa participation au génocide des Tutsis il y a 28 ans. On n'avait jamais réussi à faire de l'élevage de poulpes. Jusqu'à présent, un projet de ferme aquacole géante soulève les oppositions en Espagne. Et puis, c'est la plus européenne des séries télé, le retour de Parlement, saison 2.
Les invités d'Inter ce matin à 7h50, Léa.
Oui, alors que Vladimir Poutine fait ce matin sa démonstration de force à Moscou, un ex-mercenaire raconte pour la première fois de l'intérieur l'une des milices les plus secrètes au monde, la milice Wagner, dans un livre chez Michel Lafond. Moi, Marat, ex-commandant de l'armée Wagner, on le reçoit 7h50 avec la journaliste de Libération Véronique Adorman qui a traduit et adapté son livre en français.
À tout à l'heure Léa, 8h20 on se retrouve pour le grand entretien de la matinale avec pour invité aujourd'hui l'ancien président de la République François Hollande. Vos questions dès maintenant 01 45 24 7000.
France Inter.
Le secrétaire général des Nations Unies est horrifié par ce qui ressemble une nouvelle fois à un crime de guerre en Ukraine. Nouveau massacre de civils morts sous une bombe russe. Celle larguée samedi sur une école dans le Donbass où s'étaient réfugiés plusieurs dizaines de personnes. Il y a 60 morts selon le président ukrainien qui s'exprimait hier en visioconférence devant les membres du G7, Marie-Pierre Véraud.
Quelques 90 civils avaient trouvé refuge dans l'école du village de Bilogorivska dans l'est de l'Ukraine. Samedi, l'aviation russe a lâché une bombe qui a fracassé le bâtiment et entraîné un incendie que les pompiers ont mis plusieurs heures à éteindre. Une trentaine de personnes ont pu être sauvées, mais plusieurs dizaines d'autres sont portées disparues et il n'y a plus d'espoir de retrouver des survivants, selon le président ukrainien.
Hier encore, dans le village de Bilorivka, dans la région de Lugansk, une bombe russe a tué 60 personnes, des civils. Ils se cachaient des bombardements dans le bâtiment d'une école ordinaire qui a été attaquée par une frappe aérienne russe. Agir ainsi, c'est imiter précisément le mal que les nazis ont apporté en Europe.
Le gouverneur de la région dénonce lui aussi une attaque délibérée contre un bâtiment civil. La Russie intensifie ses bombardements dans cette région de Lugansk et dans le Donbass qu'elle entend conquérir. Les opérations militaires russes sont même redoublées à la veille du 9 mai, jour où le Kremlin célèbre la victoire sur l'Allemagne nazie. La parade sur la place rouge, le discours de Vladimir Poutine prendront un écho particulier alors que la Russie a ramené la guerre sur le continent européen.
Et pour ce défilé scruté cette année avec une attention toute particulière, Moscou a prévu d'exhiber son armée à défaut de pouvoir afficher des victoires sur le terrain ukrainien. Les forces russes ont échoué aux portes de Kiev. L'offensive se concentre sur l'est du pays et une seule ville d'importance est tombée, celle de Kherson dans le sud. Alors à Moscou, tout à l'heure, à partir de 9h heure française, on devrait voir des armes, celles qui permettent de tirer des missiles nucléaires, peut-être aussi en survol au-dessus de la place rouge, l'avion de l'Apocalypse, celui dans lequel le président russe pourrait continuer de piloter le pays depuis les airs en cas de guerre nucléaire. Et bien sûr, Sylvain Tronchet, le discours de Vladimir Poutine est particulièrement attendu.
Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, Vladimir Poutine a fait du 9 mai une démonstration de puissance, une célébration du patriotisme et un moment privilégié d'écriture ou de réécriture de l'histoire de la Grande Russie. Cette année ne devrait évidemment pas échapper à la règle. La puissance sera au rendez-vous avec la participation au défilé militaire de plusieurs composantes de la dissuasion nucléaire. Le patriotisme sera incarné par la présence d'unités ayant combattu en Ukraine. Quant à l'histoire, elle devrait prendre une large place dans le discours que le chef du Kremlin prononcera sur la place rouge. L'an dernier, Vladimir Poutine mettait en garde contre ce qu'il estimait être le retour du nazisme au centre de l'Europe, des paroles annonciatrices de ce qu'il appelle aujourd'hui la dénazification de l'Ukraine. Ira-t-il plus loin cette année? Annoncera-t-il la mobilisation générale, comme le dit la rumeur? Rien n'est moins sûr. Le 9 mai est souvent une séquence beaucoup plus symbolique que politique. Moscou, Sylvain Tronchet, France Inter.
Et la politique, c'est aussi une certaine conception de l'Europe, de Moscou. Allons à Strasbourg. Strasbourg, où l'on célèbre aujourd'hui la 72e journée de l'Europe. Mais comment rendre cette Europe plus transparente? Depuis un an, 800 citoyens tirés au sort planchent sur le sujet. Leurs 49 propositions sont remises aujourd'hui à Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron, qui assurent la présidence de l'Union. Ces propositions sont ambitieuses. Angélique Boin, que peut-il en ressortir?
Revoir la règle de l'unanimité qui bloque certaines réformes, ajouter la santé ou l'énergie aux politiques communes, donner au Parlement européen le droit de proposer des lois. Voilà quelques propositions déjà saluées par le Parlement. Le chef du gouvernement italien a aussi réagi positivement. Il y a une dynamique, se réjouit l'eurodéputé espagnol Ernest Urtasun.
Entendu Mario Draghi parler même de la fin de l'unanimité, ce qui serait une révolution. Je pense qu'il y a un momentum avec ce que Emmanuel Macron avait dit dans le passé, ses engagements avec le nouveau gouvernement allemand, avec le gouvernement espagnol. Donc on a vraiment un momentum pour essayer de vraiment commencer à construire cette Europe politique que ça fait si longtemps qu'on souhaite.
Faut-il pour cela réviser les traités européens au risque d'entrer dans de longues négociations? Oui, dit-on au Parlement, où l'on veut simplifier le fonctionnement de l'Union. Tandis que du côté des États, on tempère, achat de vaccins en commun, livraison d'armes, les traités actuels ont récemment montré leur flexibilité et mettre fin à la règle de l'unanimité ne nécessite pas de réécrire les textes, insiste une source officielle. Il le faudra, dit-on en revanche à l'Élysée, si l'on intègre à l'avenir de nouveaux pays comme l'Ukraine. Le préalable à tout nouvel élargissement sera, insiste-t-on à Paris, une réforme des institutions.
Strasbourg, Angélique Bouin, France Inter.
Les Européens, par ailleurs, qui, sur le dossier ukrainien, poursuivent leurs négociations entre États membres sur le projet d'embargo sur le pétrole russe, freiné par la Hongrie. Encore à l'étranger, jour d'élection aux Philippines, déjà endeuillé par une attaque de groupes armés dans un bureau de vote ce matin. Et peut-être 40 ans après l'exil de Ferdinand Marcos, le retour au pouvoir de la dynastie déchue, le fils du dictateur défunt, Ferdinand Marcos Junior, est en tête dans les sondages. On en parle dans le journal de 7h30.
Il est 7h07, malgré le temps qui passe, Anaïs, la justice fait son œuvre.
28 ans après le génocide des Tutsis au Rwanda, un nouveau procès s'ouvre encore aujourd'hui, celui du plus haut responsable jamais jugé en France pour ses crimes, un ex-préfet rwandais, aujourd'hui âgé de 78 ans. Il aurait pu être jugé par le tribunal pénal international pour le Rwanda, mais il s'était réfugié en France. Et c'est donc devant la cour d'assises de Paris qu'il comparait, Emmanuel Leclerc, pour sa participation à l'extermination des Tutsis, au moins 800 000 morts en quelques mois.
Au lendemain de l'attentat contre l'avion du président rwandais Habyarimana, le préfet Boussi Baruta sort dans les rues de Kikongoro, un mégaphone en bandoulière pour hurler sa haine des Tutsis. Mais l'accusé, jusqu'à ce jour, refuse d'endosser la moindre responsabilité des actes commis ensuite par ses subordonnés, son sous-préfet, des gendarmes, des miliciens. Lui, qui était marié à une Tutsi, n'aurait fait que regrouper des milliers de Tutsis dans des églises, des écoles, mais à chaque fois, systématiquement, ces lieux de refuge sont attaqués à la grenade, brûlés à l'essence. Les rescapés, on le sait, achevés par milliers à coups de machette. L'église de Kibeo, le 14 avril 1994, 10 000 Tutsis et Hutus modérés. La paroisse de Sianika, en quelques heures, la nuit du 21 avril, 25 000. Selon les bilans officiels, près de 40 000 morts pour les associations de familles de victimes. Enfin, cette école de Marie-Mercy à deux pas de la préfecture, 82 collégiens et lycéens qui pensent être à l'abri des horreurs, tous abattus sous les yeux de leurs professeurs et de quelques élèves épargnés. Laurent Boussi Baruta n'aurait rien vu, rien su.
Ouverture du procès cet après-midi, il doit durer 2 mois. Autre actualité judiciaire, la décision de la Cour d'appel de Paris attendue à 13h30 pour le couple Fillon. En première instance, François Fillon et son épouse Pénélope avaient été reconnus coupables de détournement de fonds publics et condamnés à des peines de prison, peines moins lourdes toutefois requises lors de l'appel. De nouvelles prises chez les Républicains pour gonfler les candidats de la Macronie investis aux législatives dans la nouvelle liste de 52 noms publiée hier. La Sarkozy Constance Le Grip investit pour la majorité présidentielle dans les Hauts-de-Seine. Autre transfuge LR, Emmanuel Aziza dans le Rhône.
15 départements français déjà frappés par la sécheresse.
10 ont dépassé le seuil d'alerte alors que le déficit de pluie a atteint 35% depuis le début de l'année en France. Préoccupation mondiale, la COP15 contre la déforestation s'ouvre aujourd'hui à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour tenter de lutter efficacement contre la désertification qui avance. Et voici un autre combat, celui d'une centaine d'ONG écologistes qui demandent aux autorités espagnoles de ne pas autoriser un projet aquacole démesuré. L'ouverture d'une ferme d'élevage de poulpes, une première mondiale. Installée aux Canaries, elle produirait des milliers de tonnes de pieuvres par an dès l'année prochaine pour finir dans nos assiettes en grillade ou en salade. Selon les associations, c'est une aberration écologique, incompatible avec le bien-être de l'animal, qui plus est le poulpe, considéré comme particulièrement intelligent. Or, pour l'entreprise espagnole Nueva, c'est l'aboutissement d'années de recherche et d'investissement, Sandy Dauphin.
ce serait le premier élevage industriel de poulpes au monde, car jusqu'à présent, la reproduction des pieuvres en bassin était difficile, explique Grégoire Certain, chercheur à l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
Pendant longtemps, il y a eu un verrou technologique. On savait les faire pondre. Une fois qu'ils sont adultes, on sait les engraisser. Par contre, on ne maîtrisait pas bien la survie larvaire. Et ça, c'est un domaine dans lequel les chercheurs espagnols ont investi depuis 15-20 ans, et il y a quelques années, ils ont maîtrisé le cycle de vie du poulpe.
La société espagnole a livré peu de détails sur ses équipements, mais la taille du projet l'interpelle.
Ça implique des densités sur site qui sont énormes. Là, j'avoue que, à part les mettre dans des logettes individuelles, je vois pas du tout comment vous allez les empêcher de se battre, parce que ce sont des animaux territoriaux, potentiellement et des comportements cannibales quand ils sont en densité trop forte. Si vous les séparez pas physiquement, c'est sûr qu'il va y avoir des agressions.
Les ONG redoutent un élevage de poulpes en batterie, comme des poules. Gauthier Ribeyrolle de l'association Wellfarm qui défend le bien-être animal.
Les pieuvres, on considère que c'est les animaux invertébrés les plus intelligents. Ce sont des animaux qui ont une bonne mémoire, qui aiment bien manipuler des objets et sont d'autant plus susceptibles de souffrir de l'ennui et du manque de stimulation en élevage.
La ferme aquacole espagnole produirait à elle seule 3000 tonnes de poulpes par an. C'est trois fois plus que ce que les pêcheurs français capturent en Méditerranée.
110 dauphins. Il est le favori de Roland Garros qui débute dans deux semaines. Carlos Alcaraz, le jeune tennisman espagnol, vient de remporter son deuxième Masters 1000 hier à Madrid. Tombeur de Rafael Nadal et de Novak Djokovic, il a battu le numéro 3 mondial Alexander Zverev en finale. On termine un peu comme on avait commencé avec la journée de l'Europe. Faire du Parlement de Strasbourg un décor de comédie burlesque, qu'il fallait oser. C'est ce que réussit la plus européenne des séries télé. Parlement fait son grand retour pour une deuxième saison, Alexis Demeyer.
On avait quitté Samy, cet assistant parlementaire un peu gauche, sur une victoire professionnelle et un échec sentimental. Interprété par l'impeccable Xavier Lacaille, le Trublion est de retour pour 10 nouveaux épisodes.
On le retrouve avec une ellipse de quelques mois et professionnellement, c'est un peu comme un début de saison sportive. Samy cherche un nouveau député, mais évidemment, il se retrouve pas forcément avec la bonne personne.
C'est vraiment une tactique de...
Le psychopathe.
Ouais, non.
D'imbécile.
Non. Si les gags sont ici particulièrement rafraîchissants, la série est aussi l'occasion d'une belle immersion dans les rouages complexes du Parlement européen. Les héros très attachants sont assistants, députés ou lobbyistes et ils parviennent à humaniser avec réalisme ces institutions européennes parfois abstraite pour le grand public.
C'est assez cinégénique en fait le Parlement européen. On a eu la chance de tourner dans le vrai Parlement avec des couloirs immenses, des portes secrètes. C'est bizarre mais c'est une très bonne arène de fiction. À travers l'humour, on permet de montrer quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment, qui sont ces êtres humains derrière tout ça.
Et pour ne rien gâcher, un certain Nicolas Demorand fait une apparition dans le troisième épisode.
Je suis pas certain que ce soit en tête des préoccupations des Européens.
On retrouve aussi avec plaisir l'ancien déchien Philippe Duquesne, mais aussi Luis Rego dans le rôle d'un parlementaire portugais, un peu dépassé par les événements.
Parlement avec Nicolas, donc production franco-allemande. Saison 2, c'est sur la plateforme France.tv.
Merci Anaïs Feuga. Dans 3 minutes, le Zoom, vieillir en famille d'accueil plutôt qu'en EHPAD.